Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Voilà, nous voici de nouveau avec notre émission du Mouvement Action Justice, une émission qui reprend son rôle et sa mission de sensibilisation populaire, une émission qui dénonce les abus du pouvoir et les injustices au Québec et au Canada d'une manière aussi globale que possible. Donc, vous comprenez tous, chères auditrices, chers auditeurs, que cette émission ne peut survivre sans votre participation, ne peut non plus accomplir son objectif sans votre pouvoir. Vous êtes le vrai pouvoir. Le pouvoir vous appartient, c'est à vous de redresser l'appareil de l'État en cas de nécessité. Et sans vouloir vous cacher la vérité, l'appareil de l'État provincial que, ou si fédéral semble réellement coincé dans un énorme engrenage qui annonce un avenir sombre de ce pays et s'il n'y aura pas de changement d'ici là. Donc je vous reviens dans ma seconde intervention sur quelques enjeux politiques, puis j'interrogerai mes collègues qui sont autour de moi. Donc avec vous au micro ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme en défense des droits de la personne et la surveillance civile. Mon collègue aussi, Roland Cazès, que vous connaissez tous, un militant de longue date, avide de justice lui aussi. Et j'ai une grande surprise pour vous, Maître Andrea Popisco a accepté finalement de participer à notre émission. Elle est coordonnatrice de notre mouvement, donc elle est une personne de ressources que d'ailleurs vous pouvez lui écrire sur le domaine judiciaire. Elle vous répondra directement sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, si vous le souhaitez, bien sûr. Donc nous avons aussi avec nous Madame Rosemonde Logo, agent de liaison de notre organisme. Elle se charge de la partie technique du son. Madame Logo participera également à nos débats. Donc voilà tout ce qui est de la présentation de l'équipe qui animera votre émission, celle d'aujourd'hui et celle qui vient. 514-273-4302 pour nous rejoindre. 514-273-4302 pour nous rejoindre à nos bureaux tous les jours de la semaine ou bien nous écrire info@mage-québec.com. Je répète, donc info@mage-québec.com. Voilà, restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous laisse avec la voix de Jean Ferrat et on revient avec vous après ce thème musical.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché, en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et des portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Voilà donc, rebonjour chères auditrices, chers auditeurs. Écoutez, le 2 mai 2011, une date qui marquera l'histoire du Canada à jamais. Alors pourquoi ? Parce que simplement, nous n'avons pas pu comprendre comment les conservateurs ont pu devenir majoritaires alors qu'ils étaient supposés de disparaître de la scène politique. Écoutez, nous sommes devant un phénomène nouveau du 21e siècle où le peuple vote sans savoir vers quoi il se dirige. Tous les intellectuels que j'ai rencontrés avant cette date décisive avaient la certitude que Stephen Harper ne restera pas au pouvoir. Et je suis même persuadé que lui-même sentait la fin de son règne. Hélas, grande surprise. Donc il devient majoritaire. Et vous voyez comment les politiciens profitent de l'ignorance et de l'incertitude du peuple pour aboutir à leur fin politique. C'est le prix de la démocratie et nous n'allons rien dire de ce vote majoritaire. On va même accepter de périr s'il le faut et de sombrer même avec ce choix. Mais nous allons toujours continuer à dire que c'était le pire choix qu'il ne fallait pas prendre. Donc même la victoire de Stephen Harper en 2006 est due en grande partie à un groupe ultra-religieux. N'oublie pas que Stephen Harper soutient Israël sur tous les fronts. La religion devient un facteur important dans l'établissement de la politique étrangère. Écoutez, le budget militaire canadien est de 22 milliards de dollars par année. Le budget militaire, au lieu de diminuer, il a augmenté avec les conservateurs de 44%. Et on ne sait pas encore quel pourcentage va-t-il atteindre dans les années qui s'approchent. Sans vous parler en plus des pertes de vie dans les rangs des soldats canadiens, une perte jugée inutile pour ne pas dire gratuite. Je vous rappelle aussi, chers auditrices, chers auditeurs, que la politique canadienne a toujours été une politique étrangère non interventionniste. Qu'est-ce qui a fait que le Canada décide de prendre ce virage de 180 degrés d'une alerte guerrière? Une nouvelle idéologie militaire s'installe à force de bras sur toute la ligne. Alors que les États-Unis reculent devant cette politique de force, le Canada qui avait imité le pas n'arrive pas à faire demi-tour. Et pourtant, l'expérience de nos voisins a bien montré que ce n'était pas le meilleur choix et non plus la meilleure voie à suivre. Imaginez-vous, chères auditrices, chers auditeurs, 22 milliards par année. Je me demande vers quoi le Canada réellement se dirige. 48 milliards de dollars uniquement pour l'achat d'équipements militaires, sans compter l'entretien. Monsieur Harper prévoit déjà un budget de 490 milliards pour les 20 prochaines années. Bordel. Est-ce que c'est la fin du monde qui nous annonce, ou plutôt que le monde entier va entrer en guerre contre le Canada? Nous sommes vraisemblablement dans le délire ou la schizophrénie. Écoutez, personne ne souhaite envahir le Canada. Mais semble-t-il que nous sommes en préparation d'attaquer le monde entier, sinon une provocation gratuite et idiote de notre part a semé la panique dans la vie de la population. Le Canada a toujours été un modèle pour les autres. Et elle se détache d'une vitesse de lumière de cette ligne, de cette image que le monde retient d'elle. Et avant l'arrivée des conservateurs au pouvoir, les forces canadiennes jouaient un rôle actif dans les opérations de maintien de paix. Maintenant, cette force est utilisée comme force d'intervention et de combat. Quelques jours même avant, la Libye, par exemple, avait déclaré plus que 22 000 victimes civiles et un pays en désastre total. Qui pourra aujourd'hui nous dire ils sont où ces opérations de maintien de paix? Vous savez qu'une fois Tripoli était libéré, presque tout le pays, ou tout le pays de l'OTAN, ont réclamé leur part du gâteau, vous le savez, incluant bien sûr le Canada, et vous comprenez comment l'investissement dans le militaire rapporte de l'argent. Voilà simplement une face de la philosophie de Stephen Harper. Partager une tarte sur le dos de 22 000 cadavres et une ville en ruine nous montre à quel point que cette nouvelle idéologie est dégueulasse. Le Canada fait partie, malheureusement, sans exception. Écoutez, encore en plein restriction budgétaire et en signe de priorité politique, on va même rénover la suite exécutive de sous-ministre de la Défense, $375 000, pour donner un autre décor, une autre image à cette salle qui est réservée pour les déclarations de guerre. Ou plutôt envahir d'autres pays dans le monde. Le poste même de sous-ministre de la Défense a été créé par Stephen Harper. Sans vous parler des voyages personnels, des généraux et de la famille militaire, et l'utilisation des avions de l'État payés par les poches du contribuable, nous sommes devant une politique qui sème la peur et la terreur. Mais malheureusement, l'inconscience de la majorité du peuple canadien encourage fortement ces manœuvres malmenées du gouvernement Harper. Je peux vous parler longtemps de tas de choses qui ne fonctionnent pas du tout et qui montrent hors tout doute que Stephen Harper est le pire premier ministre qui a existé dans toute l'histoire du Canada. Laissons de côté le manque de respect envers le pouvoir judiciaire. Par exemple, dans l'affaire de Omar Khadr, vous le savez, le pouvoir politique vient d'affaiblir la légitimité du pouvoir judiciaire. Le traitement politique de ce dossier nous montre une autre face très inquiétante du gouvernement Harper, diviser les citoyens canadiens en deux catégories distinctes. Donc on a citoyens de première classe et citoyens de deuxième classe. Comme citoyens canadiens aux yeux de M. Harper, nous ne sommes pas tous égaux. Votre origine peut facilement vous basculer dans la seconde classe. Je me demande s'il n'y a pas encore une troisième classe réservée à d'autres types de citoyens canadiens, selon la vision de M. Harper. C'est quand j'ai parlé de cette grande violation de droit envers cet enfant soldat, je ne cours pas à sa défense, loin de là, mais je voulais juste vous rappeler que le Canada était le premier signataire d'une convention internationale qui protège les droits de ses enfants victimes. Et il demeure toujours que M. Harper refuse le rapatriement de ce prisonnier. Imaginez-vous, chère auditrice, chère auditeur, si un jour on découvre que ce jeune homme n'a jamais tué personne. Quelle déception énorme devons-nous confronter. Une injustice faite pour l'un est une injustice faite pour tous. N'oubliez jamais les paroles de Martin Luther King. Donc il y a trop de choses à dire et je peux vous parler de la loi, la C10 sur le resserrement des peines criminelles et en particulier celle des jeunes de moins de 18 ans. Je peux vous parler aussi du projet de la loi déposé par les conservateurs afin d'éliminer les partis politiques en voie de développement. Encore pire, le projet de la loi par exemple qui permet au gouvernement d'intervenir dans les affaires internes des syndicats. Et combien de temps me faut-il pour couvrir les catastrophes des conservateurs et plus précisément de la politique de M. Harper? Bref, finalement, pour vous prouver à quel point ce gouvernement est dangereux, il va même nommer la majorité des juges à la Cour suprême, une nomination à vie. Et je vous laisse imaginer le reste et les conséquences de tout ça. Nous allons faire une petite pause musicale et nous revenons ensemble, cette fois au Québec, pour voir si le Québec est à l'abri de ces catastrophes politiques. Chers auditrices, chers auditeurs, restez à l'écoute sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.
Quel ordre se profile, quel rapport de pouvoir? Devons-nous l'an 2000 qui aurait pu prévoir qu'il ne restait qu'un fil accroché à l'histoire? Les champs magnétiques de ma déraison, les voix qui me dictent, les cris d'amour. mondiale et les Nations Unies. Pas de contre-pouvoir au dollar qui défile. Et puis dans les couloirs, les banquiers qui se faufilent. Derrière nous 2000 ans et des années-lumière. Le mât des raisons, les voix qui me dictent, les cris d'Allah, les mots d'amour qui me hantent, qui m'entourent, qui me hantent, qui m'entourent. Qu'il faut revisiter en partant du sensible. Aux artistes il est choix des choses à inventer et prendre quelques rêves pour la réalité. Les champs magnétiques. Le mât des raisons, les voix qui me dictent, les cris d'Allah, les mots d'amour qui me hantent, qui m'entourent, qui me hantent, qui m'entourent.
Voilà, donc rebonjour chère auditrice, chers auditeurs. Est-ce que maintenant, ici au Québec, la politique se porte un peu mieux? Ben, je suis désolé de vous dire non. Et vous le savez très bien que le Québec est tout à fait loin d'être à l'abri de ces catastrophes politiques. Notre premier ministre, Jean Charest, a tout fait pour briser la confiance qui relie le peuple au pouvoir. La population québécoise se sent trahie devant les multitudes de réactions néfastes de ce gouvernement hypocrite comme jamais. Réellement, ici au Québec, on parle d'un gouvernement qui prend le peuple pour un troupeau de moutons, et cette fameuse réclamation d'une commission d'enquête publique sur l'industrie de la construction a fait déborder le vase. Et cette réclamation nous a ouvert aussi les yeux sur la vraie face de Jean Charest. 2 ans d'attente, 2 ans de protestation, jour pour jour, par tous les milieux, pour arriver finalement à une vraie moquerie stupide de la part de Jean Charest. En tout cas, imaginez-vous, pas le minimum de respect, hein. Aucun respect envers le peuple, envers le vrai pouvoir pourtant. Bordel, qui vous a mis M. Charest dans ce poste? C'est le peuple et vous devez en échange le respect total. Elle est où cette putain de conscience professionnelle? Le souci de la réputation de notre province dans le monde aujourd'hui. Un vrai désastre moral qui emporte avec lui presque toutes les institutions politiques. Tout ce que Jean Charest a pu faire jusqu'à aujourd'hui, c'est de nous montrer la face cachée d'un pouvoir qui s'en fiche totalement de la volonté du peuple et des institutions qui l'entourent. Isolé presque tout seul sur la scène politique, cet homme a montré à quel droit. Il nous a montré aussi un pouvoir mafieux qui qui fait honte. Mais Jean Charest, lui aussi, est conscient du fait que le peuple est définitivement découragé par cette pratique politique rarement vue. Et pendant que ces centaines de milliers de dollars sont littéralement volés des coffres de l'État par le biais du système occulte de surfacturation et d'octroi des contrats publics, le gouvernement du Québec trouve le courage, en froideur et sans gêne aucune, d'annoncer la coupure de 800 millions de dollars en santé et en éducation. Sans vous parler aussi de la hausse des tarifs d'électricité, celle des frais de scolarité, et combien. L'argent de nos impôts, mes chères auditrices, chers auditeurs, doivent servir à financer les services publics et non pas à enrichir les plus riches. Finalement, comme vous le savez, il reste de devoir aux citoyens d'intervenir en cas de déraillement politique, d'intervenir justement afin de redresser l'appareil politique sur la voie bonne voie. Et personne d'autre ne pourra le faire. Je dis bien personne d'autre ne pourra le faire aussi bien que vous, mes chers citoyens. Voilà pourquoi je vous rappelle toujours que vous êtes le pouvoir et vous devrez en tout temps agir en conséquence. Écoutez, nous allons faire une pause musicale et nous revenons avec notre ami Roland Cazès qui va donner son opinion sur la façon d'agir de nos politiciens et pourquoi nous devrons demeurer vigilants en tout temps. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Restez à l'écoute.
Bonsoir, c'est le bonsoir. Un nouveau départ, un long voyage. Alors ce soir, sans un au revoir et sans bagage, allez, je pars et je débute ce soir. Ce soir, je suis clochardée sur le trottoir entre un ivrogne et trois connards. Dans un urinoir, on me bichonne. Il va falloir que je perde la mémoire. Hier encore, encore un verre et je m'endors, encore à boire. Hier encore, et j'étais belle, il faut me croire, hier encore. Allez, Fanny Milan, il faut rentrer dehors. Ce soir, il va pleuvoir, il y a des jours où c'est la nuit. C'est le bonsoir, il y a toujours un fruit pourri sur le trottoir, au coin d'une rue barbare. Ce soir, au fond du square, c'est le territoire d'une charogne et son clébard. En tout cas, personne à décevoir, il fait trop noir. Et voilà mon premier soir. Hier encore, encore un verre et je m'en j'étais fière, il faut me croire, hier encore, encore, encore à boire. Il est enfin trop tard. Une pièce ou deux pour me laver, monsieur, s'il vous plaît. Je vous ressemble encore, à chacun son brouillard. Et si je meurs ce soir, oui, je suis comme un fou. Je m'en fous.
Bonjour, chère maîtrise, chers auditeurs. Donc voilà, je passerai la parole, je cèderai plutôt la parole à mon collègue Roland Cazès pour donner son opinion à propos de l'agissement politique.
Eh bien voilà, moi, d'après moi, le gouvernement a cherché un faux fuyant.
La commission d'enquête.
La commission d'enquête, bien sûr, Charbonneau. Qu'est-ce qu'il a fait en définitive? C'est que vu que les gens commençaient à le tanner, ni plus ni moins, pour la commission d'enquête, il a décidé de
On parle de 2 ans. Hein,
ah oui, virer la population contre la FTQ, le bureau de placement de la FTQ. Ça a toujours été depuis Jérusalem. Enfin bref, je ne sais pas, ça fait combien d'années, j'ai déjà manifesté pour ne pas enlever les bureaux de placement de la FTQ. Nous avons fait sauter le manpower qui existait dans le temps pour nous faire faire des applications, jusqu'à 5000 applications par jour. On a fait sauter complètement chaque bureau d'une façon bien délicate et puis bien intelligente. Et depuis, le gouvernement a laissé ça dormir. Et voilà que tout d'un coup, on se réveille. La FTQ qui a le bureau de placement. Mais la FTQ a au-dessus de 70% et 80% peut-être de gens.
Mais vous parlez, c'est-à-dire vous disiez que, comme quoi le problème existe depuis très longtemps.
Ah, depuis très longtemps. Depuis toujours, depuis M. Cournoyer. Autant oui. où M. Cournoyer était ministre du Travail. Oui. M. Trudeau était président, enfin, premier ministre du Canada. M. Bourassa était en définitive le premier ministre de la province de Québec. Ça existe depuis Jérusalem. Mais ça n'a jamais aussi bien été placé. D'ailleurs, toutes les entreprises étaient acceptées que la FTQ place le personnel. C'était, c'est pas la CSN qui va placer le personnel dans la construction. Oui. C'est pas la CSD qui est toute nouvelle et toute jeunette et qui n'a même pas réussi qui va placer en définitive les gens de la construction. Les gens de la construction, il y a une formation, il y a quelque chose qu'il faut savoir, que la FTQ connaît, que l'international connaît, parce qu'il n'y a pas juste la FTQ. Et que la CSN n'est pas au courant du tout. D'ailleurs, on a déjà vu des employeurs. La CSN, c'est devenu quasiment un syndicat de boutique. Alors, moi, je m'excuse pour avoir travaillé dans la construction, pour avoir été dans la FTQ. Je trouve que le gouvernement a détourné le problème de la commission d'enquête vers le placement.
Oui, oui, vas-y.
Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Eh bien, tout le monde en veut à la FTQ, tout le monde en veut. Pourtant, ça prend quelqu'un d'organisé qui va placer le personnel comme il faut et qui va connaître les qualifications que ça prend et savoir le délai, le temps et ainsi de suite quand ça prend des repas pour des gens qui n'ont pas accès en définitive. Enfin bref, toute la qualification, il y en a. Et il y a le local 568 des électriciens, il y a tous les locaux en définitive de toute la construction sont vraiment autour de la FTQ, non pas de la CSN ou de la CSD. Alors, on essaye de gratter le dos de la CSN en même temps. Et là, ça ne donnera pas de résultat.
C'est parfait, on va juste prendre peut-être la pause pour l'annonce et puis on revient. Avec une annonce publique.
Il est perspicace, cet animateur.
Oui, on dirait qu'il est familier avec le cinéma.
Oui, Francine, ton regard politique est encore bien aiguisé. Il y a sûrement eu un déclic qui a fait que ces images puissent en être partagées.
Là, tu fais une surprise!
Puis quand je voyais ton film, j'ai pensé un petit peu au corps céleste.
Non, mais vous avez failli mourir.
Oui, oui. Une heure de cinéma. Derrière l'image, avec Francine Morandeau, Pierre Pageau et Guy Ménard. Vendredi, 15h.
La Voix du Flamenco est de retour après deux concerts à guichet fermé au festival en 2010. Diego El Cigala est à la Place des Arts. Surnommé le Sinatra du Flamenco, il revisite le tango argentin d'une touche de flamenco madrilène. Chanteur au talent incontestable, laissez-vous envoûter par Diego El Cigala au Théâtre Maisonneuve le 3 novembre. Réservez votre siège sur laplacedesarts.com, une présentation de TD en association avec La Presse et 5FM.
Les rencontres berbères de Montréal, un voyage musical et culturel au cœur et autour de la culture nord-africaine à Montréal et dans le monde. C'est un rendez-vous tous les mercredis de 13h à 14h sur Radio Centre-Ville.
Cherchez la page Facebook de Radio Centre-Ville. À vendre, un GPS, des bouquins, des ensembles draps, un four micro-ondes et plus. Tous des articles neufs. Combien voulez-vous payer? Faites une offre sur la page Facebook de Radio Centre-Ville.
Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centre-Ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer.
Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Donc voilà, bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Voilà, on revient toujours, on retourne avec notre collègue Roland Cazas qui, dans son opinion, sur l'agissement politique, oui.
Il y a des choses qui ont été dites qui sont affreuses, qui sont des mensonges. Des femmes ont été battues par le syndicat. Mais vous vous imaginez, ce sont des mensonges qui sont comportés, c'est des on-dits. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de films, il n'y a absolument rien qui peut prouver ça. Et puis il y a deux bonnes femmes qui s'assoient et qui disent « oui, il y a même une femme qui a été battue ». C'est facile à affirmer des affaires comme ça, c'est du on-dit, ça n'a pas de sens. On met une haine envers le syndicat, alors que le syndicat c'est l'organisation des ouvriers. Qui voulez-vous qui organise les ouvriers? La CSN ou la CSD, oui. Voyons donc, ils ne sont même pas organisés eux-mêmes. Vous le savez, nous avons eu des dossiers sur la CSM avec M.
Bernard Deschamps,
qui a travaillé 30 ans de dévouement pour la même compagnie, sans accident, sans rien, en chauffeur d'autobus. Et puis aujourd'hui, CSN le châtie quasiment, l'accuse, mais un peu plus, il le mettra en prison parce qu'il était payé légèrement plus cher que d'autres. Oui. Voyons donc. Non, parlez-moi pas de syndicat de boutique. Oui. Parle-moi d'un syndicat qui représente vraiment les ouvriers, c'est la FTQ, et c'est pour ça que lorsque le gouvernement nous avait demandé dans le temps passé de voter pour quel syndicat qui dirigerait, et le monde leur a dit au gouvernement, mêlez-vous de vos affaires, ce ne sont pas vos affaires les syndicats, c'est l'affaire des ouvriers.
Tout à fait, oui.
Ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Maintenant, si le gouvernement décide d'organiser le placement, comment peuvent-ils organiser le placement alors que l'OCQ, l'inspection même des travaux ne se font plus par les employés du gouvernement parce que ça coûte trop cher. Ouais. Est-ce que quand on placera les employés, on va les placer même à un prix plus cheap, à un prix moins cher, c'est-à-dire quasiment du travail en noir pour pouvoir assurer les contrats du gouvernement avec les PPP et compagnie? Voyons. Les syndicats respectent le salaire horaire des employés. Les syndicats voient à la condition de travail des employés. Et au respect, même des fois, des patrons exigent de faire certains travaux qui sont dangereux. Et les syndicats, eux, peuvent automatiquement lever un grief et dire « c'est dangereux pour les hommes, on ne tuera pas d'hommes ici, il n'est pas question que des hommes se fassent tuer parce qu'il y a des patrons qui sont exigeants, qui veulent négliger de sécurité et ainsi de suite ». Alors il faut faire attention
L'intervention vraiment.
L'intervention syndicale est très importante. Ouais. Ensuite de ça, pourquoi?
Et que le gouvernement intervient dans le cas dans
les syndicats. Pourquoi dans les hôpitaux on demande que tout le monde ait une carte à la poitrine avec son identité et autres? Ouais. Pourquoi qu'on ne demande pas dans la construction le même fait, une plaque plastique avec sa carte? On n'a pas besoin de lui demander de sortir de sa carte du portefeuille ou de sa voiture ou de son vestiaire ou autre. Sa carte, elle est affichée à sa poitrine. On sait si le gars est syndiqué, qu'il n'est pas au noir et qu'il respecte vraiment les normes de la construction.
Mais maintenant, peut-être, Roland, revenons un petit peu sur cette fameuse commission d'enquête qui va se déclencher. Est-ce que, pensez-vous, à votre avis, est-ce qu'elle va aboutir sur quelque chose?
Mais non, c'est de la clownerie, là. Je m'excuse. Quand on commence à dire à un juge qu'il est limité, je m'excuse, là, vous venez d'amputer un juge. Ouais. Coupez-lui la moitié du cerveau, de façon qu'il ne peut pas penser avec le gauche ou le droit. Voyons, ça n'a pas de sens. Un juge a les moyens et il doit se procurer les moyens d'agir et d'enquêter.
Mais je pense sur ce point-là, c'est déjà réglé, je pense.
Je ne pense pas. C'est une bouffonnerie. Ça va mettre 2 ans et demi, puis là, ça sera les élections, puis monsieur sera blanchi de toutes les conneries qu'il a fait. Je m'excuse, mais c'est ça. On essaye de faire perdre du temps aux citoyens et au monde, et sur les enquêtes, en traînant des enquêtes pendant 2 ans, 2 ans et demi. Je m'excuse, j'ai beaucoup de respect pour Mme Charbonneau. Ouais. Le juge Charbonneau, je ne veux pas critiquer le juge Charbonneau.
Pour vous, c'est
les moyens qu'on lui donne.
C'est du théâtre ou quoi pour vous?
C'est du théâtre. C'est la commedia dell'arte, ni plus ni moins. Écoutez, il faut regarder les choses en face. Un juge est un juge suprême. Personne n'a le droit de lui dire « Ah non, vous ne faites pas ci, ah non, vous ne faites pas ça, mais alors qu'est-ce qu'il va faire ?»
Mais cette position de charré, ça ne fait pas peur? Parce que moi, quand je parle avec les gens, les gens ont peur.
Cet homme me fait peur. Il touche des sommes d'argent déjà sous la table.
Mais
je m'excuse, il touche des grosses sommes d'argent, 70 000 $.
Non, mais l'attitude.
C'est illégal, il est le premier ministre.
Non, mais c'est pas juste ça. Mais c'est pas juste ça, l'attitude. Tu sais, l'attitude de refuser carrément.
Mais c'est un malade. Ouais. Moi, je m'excuse, il n'a pas sa place au Québec. C'est un malade. C'est un malade grave.
Mais ça fait vraiment. Parce que moi, quand j'ai ça, l'impression que j'ai, quand je parlais avec des gens, ils ont vraiment peur.
Mais écoutez, il n'y a qu'à voir sa réunion dernièrement. Qu'est-ce que son monde lui a dit? Ils l'ont dit, c'est la commission, ou alors, dehors, mais là, oui, alors on sort la commission d'enquête, mais on fabrique, là, un juge, là, qu'on empêche, on veut l'empêcher, en définitive, de...
Mais Roland, c'est quasiment, c'est presque, je sais pas si je dis le mot...
C'est la fumisterie.
Mais presque, on arrive à le plier le bras pour qu'il arrive à dire oui, et crache là, le morceau, quoi.
Ben, on a entendu comment qu'il se finance, hein, on a vu ça dernièrement encore, il y a un de ses premiers ministres, là, de la famille, je pense, le ministre de la famille, qui était encore dans l'embarras. Ouais. On avait l'autre ministre de la famille qui était encore dans l'embarras, qui était accusé. Et puis la nouvelle, la pauvre femme, elle se retrouve encore dans une situation là que... Non, écoutez, c'est un gouvernement qui est là pour faire de l'argent. Pour lui. Ouais. Pour ses élections. Pour son affaire. Alors moi, je trouve que c'est...
Et cette histoire du plan de le plan Nord, là
Ah, le plan Nord, écoutez, la pollution Nord, là, moi j'appelle ça la pollution Nord. On va polluer les derniers endroits où les autochtones peuvent vivre encore à l'état sauvage, là, on peut le dire. Ouais. C'est ça. Le plan Nord,
finalement, aller chercher l'argent n'importe comment.
C'est n'importe comment, voilà. N'importe quoi, n'importe comment, de n'importe quelle façon, de façon à ce qu'il y ait de l'argent à faire. Ouais. Et des commissions, sûrement.
Écoutez, vraiment, c'est dégueulasse. Écoutez, je préfère prendre une petite pause musicale et je reviens continuer avec le débat avec mon collègue Roland Cazès.
Semaine vient broder des survettes pour l'homme blanc qui golfe en voiturette, sale dans sur la planète. Oh, le drôle de temps. Porter secours, c'est défendu. Le monde autour est sourd, bien entendu. Chercheur contre nature, truqueur sur l'honneur et qui jure, faut pas que ça vous inquiète. J'ai bien connu l'animal mort dans votre assiette, sale temps sur la planète. Oh, le drôle de temps. Porter secours, c'est défendu. Le monde autour est sourd, bien entendu. Tricheur à la tribune, menteur amassant la fortune, grimpeur dans la tempête. Rien que des doses d'eau claire au fond de la musette, saltant sur la planète. Sourd, bien entendu. Cendrillon tombé d'un coin du Sahel, perdu sur un bout de papier, me lance un appel. Et dessus, elle dit c'est où exactement? C'est où exactement la tour de Babel? Monsieur sort de l'église, heureux que les hommes fraternisent son fils qui lui fait la tête et lui qui court acheter le fusil et les fléchettes, saltant sur la planète. Oh, le drôle de temps. Porter secours, c'est défendu. Le monde autour est sourd, bien entendu. Pendant qu'on se promène,
bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc voilà, donc revenons à la base de notre mouvement, l'abus de pouvoir, les injustices dans notre société. Et j'aimerais bien aussi interroger sur ce fait monsieur, notre ami Roland Cazès. Vous savez, sur Roland Cazès, la mort qui nous a tous... Mais écoutez, la mort de Mario, je parle de Mario l'itinérant, là, de Mario Hamel.
Mario Hamel, oui.
C'est une mort, vous savez, qui est inutile, le non-respect du citoyen.
Quant à lui, il était malade. Oui. Il était malade. Cette personne était malade.
Oui, oui.
Écoutez, c'était psychotique, c'était un drogué, c'était si.
Je vous avisais comme quoi on n'a pas pu intervenir parce qu'on était passé les ondes. On avait on était hors les ondes.
Hors des ondes pendant, oui,
pendant
la période.
Deux mois,
là où
la
ça
période.
S'est passé.
On a pu, malheureusement, on n'a pas pu intervenir et je profite de l'occasion pour interroger justement monsieur Cazès, oui.
Mais alors, pensons à monsieur Limoges aussi, qui était pour rien, lui, qui était un monsieur qui allait, Patrick Limoges, qui allait travailler. Qui était en bicyclette et puis qui passait à l'arrière. Les policiers ont été complètement, mais alors complètement désorganisés. Comment des policiers avec des coffres de voiture, avec des rubans jaunes, avec des boucliers, avec des bâtons électriques, comment n'ont-ils pas pu arrêter un psychotique, un malade mental, un drogué? Et ils ont tiré dessus, là, au pigeon d'argile, là, ils ont descendu l'autre monsieur qui passait, qui se rendait à son travail. Écoutez, à un certain moment, j'ai été dans le maintien de l'ordre en Afrique, dans les pays qui sont devenus souverains. On avait des chargeurs cousus. C'est-à-dire qu'il fallait défaire le fil qui cousait le chargeur, sortir le chargeur de l'étui, afin de pouvoir le faire pénétrer dans l'arme. Et on faisait les sommations.
Mais fais attention sur ce que vous êtes en train de dire, parce que pour prendre tout ce temps-là, si par exemple ils étaient devant un cas un peu particulier, ils ont pu...
C'était donc d'avoir la volonté de tirer lorsque l'on chargeait vraiment l'arme, parce que l'arme devait être déchargée par sécurité. Et on faisait les sommations. Attendez-moi.
Mais je ne vous poursuis pas du tout là.
On faisait les sommations. Ouais. Avant... On ne se sert pas du prénom de la personne pour faire des sommations.
Ah, c'est notre
chose, monsieur,
ça.
Arrêtez. Oui. À monsieur, si vous n'arrêtez pas, nous allons tirer.
Oui.
Nous faisons les sommations.
Ce n'était pas le même cas, là. C'est le cas.
Mais là, on l'appelle Mario. Donc Mario, qui est malade mental,
familier,
ou qui est complètement dérangé, pense automatiquement...
Tu veux dire
que...
familier par les policiers, ça, ils le connaissent.
Il n'est pas... Voilà, comme s'il était en terrain de connaissance, ils tireront pas sur moi. Voilà ce qu'il pense, le pauvre malade mental, innocent.
Ouais. Ah, de vous parler de son côté à lui. Là,
et voilà, ouais. Dans sa tête à lui, là, qui était malade.
Ouais.
Et là, les policiers agissent d'une façon sévère et tirent. Quatre policiers tirent. Et là, monsieur... Limoges tombe, lui qui passait en bicyclette à l'arrière, qui était innocent, père de famille, qui allait à son travail. On vient de détruire quelqu'un parce que la police n'est pas organisée, parce que la police est mal formée.
Mais ça, c'était un cas parmi d'autres. Hein.
Ah oui, mais un cas parmi d'autres. Hier, par exemple, je vous cite le cas d'hier,
un
véhicule qui ne fait pas un stop, le policier sort son arme et tire sur la voiture. Est-ce qu'on est au Far West? Ça s'est passé au Québec. Est-ce qu'on est au Far West? Est-ce qu'on doit agir de cette façon scandaleuse? Excusez-moi. Est-ce que ça doit se faire de cette façon-là? Est-ce qu'on n'a pas un peu de civilité, un peu de dire le respect humain? Écoutez, cette personne n'a peut-être pas vu le stop. Cette personne, tout le monde peut faire une erreur. L'erreur est humaine.
Oui.
Mais le policier qui tire, je trouve que c'est une erreur inhumaine.
Mais après la mort de M. Mario Hamel, il y avait aussi encore... Les policiers ont profité de l'occasion pour avoir aussi le gun, le pistolet électrique. Là, il est permis, j'imagine.
Écoutez, là, la SQ a fini son enquête.
Oui.
Et il se demande... en toute sincérité, s'ils vont porter des accusations contre les policiers qui ont fait ce crime, qui ont tué M. Limoges. Je ne parle pas du monsieur qui était malade mental.
L'itinérant, on ne parle pas de lui, là. Il ne vaut rien pour...
lui, il est mort.
Oui.
Maintenant, est-ce qu'on portera plainte contre les policiers qui ont tué un bon père de famille? Comment ça va s'arranger, cette affaire-là? C'est ça que, moi, qui m'inquiète en tant qu'être humain.
Mais excuse-moi, mais la mort pour vous, la mort de M. Mario Hamel, ça vaut pas
le... Bien sûr que je trouve que c'est malheureux, mais seulement tout ça, c'est de la négligence policière.
Oui.
Parce que, je m'excuse, dans Montréal, la drogue circule à l'appel.
Ça, j'en sais, oui.
Alors, si on dit on a perdu la guerre contre la drogue, demain on va dire on a perdu la guerre contre le crime, après-demain on va dire on a perdu la guerre contre les vols de banque. et on va laisser faire. Oui. Il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. La drogue est nuisible à tout humain. Écoutez, on dit que la cigarette tue, mais la drogue, elle tue en plus, non seulement les gens qui sont drogués, mais en plus de ça, les autres qu'ils ont drogués, les enfants dans les écoles et autres.
C'est un phénomène monstrueux aussi.
Monstrueux.
Hein.
Alors, est-ce qu'on arrête cette drogue, oui ou non, ou on prétend qu'on a perdu la guerre? À ce moment-là, on a qu'à dire, on a perdu la guerre aussi contre le crime, on a perdu la guerre aussi contre le meurtre, on a perdu la guerre contre les vols de banque. Mais à ce moment-là, on va vivre dans une zizanie.
Ouais, mais Roland, c'est en train de le dire, comme quoi, à la place de tirer sur les ignorants, qui sont en défense comme ça, il faut aller vers attaquer plutôt d'autres.
Mais écoutez, ils ont des boucliers, bon, ils ont des bâtons électriques. Ouais. Le gars avait peut-être un grand couteau, une machetta ou autre. On va supposer qu'il y ait une machetta. Ouais. Mais écoutez, avec
c'est pas le cas finalement. Ouais.
Ils ont des outils dans le coffre de la voiture, là, ouais. Les policiers, ouais. Là, et qui nous coûtent cher. Mais s'ils les utilisent pas, ils préfèrent tirer au gun, là, ouais. Faire tirer au pigeon d'argile. Je m'excuse, c'est pas leur rôle.
Mais c'est quand
ils
même...
sont agents de la paix. Ils ne sont pas des guerriers. Ils sont des agents de la paix. Ils doivent maintenir la paix.
Oui.
Voilà. Ni plus ni moins. Alors il faut savoir à un certain moment si nos policiers sont bien dirigés. Est-ce qu'ils devraient continuer à être dirigés par des maires de municipalités ou par un préfet de police avec expérience qui va conseiller, qui va diriger ses hommes d'une certaine façon, puis leur faire les remontrances qu'il faut quand ils auront fait des erreurs.
Maintenant, écoutez, c'est important ce que vous êtes en train de dire, et j'aimerais bien peut-être céder la parole à Maître Andrea Popisco, qui est avec nous aujourd'hui, peut-être lui poser la première question suite à ce qu'il vient de dire, Monsieur Roland, comment obtenir réparation justement suite à une intervention, Maître Andrea, de la police, hein? Quels sont les recours, si vous voulez, possibles si on estime être victime d'une injustice perpétuée par la police?
Oui, bonjour. Je suis très contente d'être parmi vous en ce beau matin ensoleillé. Donc, écoutez, lorsque nous faisons face à ce genre de situation, nous avons plusieurs recours qui ne donnent pas tous nécessairement le même résultat. Donc, nous pouvons demander une réparation au civil pour être dédommagé.
Vous parlez maître d'une manière globale, générale, hein?
Exactement, puisque je ne me permets pas de rentrer dans les détails. Je vous donne mon opinion un peu de façon générale, n'est-ce pas? Donc, il y a une compensation civile suite à des dommages subis, donc avec l'aide d'un avocat, on peut loger une demande pour être compensé. Il y a également un recours en déontologie policière qu'on appelle. Oui. On peut le loger auprès du commissaire à la déontologie policière. Ce recours, son but, c'est de réprimander le policier dans son travail, soit de lui donner un avertissement ou de le punir, de le suspendre, etc.
Mais vous le savez aussi bien, peut-être, je ne sais pas si vous le savez aussi que moi, que la déontologie policière, c'est n'importe quoi, quoi. C'est-à-dire, selon l'expérience que j'ai moi-même, j'étais allé présenter plusieurs fois des dossiers là-bas, et ça n'a pas donné un résultat réel, quoi. C'est, les gens ne sont pas satisfaits réellement. La population, non, ne sont pas satisfaits dans la majorité.
Je ne sais pas exactement quoi vous répondre par rapport à cela, Monsieur Zitouni. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est quand même un recours utile.
C'est un recours, je suis tout à fait d'accord.
Il est là, donc c'est à nous de prendre le soin de bien loger la plainte comme il faut, de donner
tous les
détails.
Pour vous, il faut faire ces démarches-là.
Exactement,
Il faut même pas attendre le résultat.
Parce que nous n'avons pas d'autre choix.
D'autre choix, exactement, maître, oui.
Faut travailler avec ce qu'on a.
Exactement.
N'est-ce pas? Donc, voilà, je disais qu'il y avait ce recours en déontologie policière, donc entre autres, il se base sur la loi, le code de déontologie des policiers du Québec. Et finalement, vous pouvez, suite à, par exemple, dans le cas de Monsieur Hamel ou dans le cas de Monsieur Limoges.
Ça, c'est un cas particulier aussi. Hein.
Oui, mais parfois, il y a, par exemple, des interventions policières où on emploie la force déraisonnable, ce qu'on appelle.
Oui, tout à fait. Oui.
Et dans ce cas-là, on peut aussi porter une plainte au criminel. voilà, contre les policiers, puisque comme n'importe qui, lui aussi, il doit obéir à des lois déjà établies. Et c'est une façon aussi de...
J'aime ça parce que même si ces policiers sont protégés par l'État, ils sont protégés par la fraternité, ou j'ai envie de dire un gros mot, mais quand même, il faut agir. C'est-à-dire il faut quand même porter plainte et attendre au bout du tunnel qu'est-ce qui va se passer.
C'est sûr, parce que c'est entre autres un moyen de pression. Si les gens vont faire valoir leurs droits, on met un peu de pression tous ensemble, n'est-ce pas?
Oui. Mais maintenant, Maître Andréa, puisque vous intervenez comme ça, j'aimerais bien voir votre expérience en tant qu'avocate et tout. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à la population dans ce rapport avec la police? Je sais qu'il y a des cas particuliers un petit peu, mais en général, je ne parle pas des cas de Mario, d'autres ignorants malheureusement et tout, mais dans les cas généraux, surtout il y a des jeunes qui sont reprochés par les policiers et puis. Il y a une sorte d'intimidation, quels sont les conseils que vous donnez comme ça en général pour que les gens peuvent retenir et peut-être servir?
Oui, bien entendu, je peux vous donner mon opinion et ce n'est pas nécessairement à titre d'avocate aussi, c'est par
opinion de citoyen aussi.
Constatant certaines choses, certains faits, je peux vous dire... les gens se trouvent souvent un peu frustrés lorsqu'ils sont
arrêtés
face à face avec des policiers parce qu'ils sont les policiers semblent être un peu méprisants à leur égard, etc. On se sent un peu basculé, etc. Mais il faut absolument toujours rester courtois et poli envers les policiers, même si ceux-ci ne font pas...
Je suis complètement d'accord avec vous.
Parce que j'ai souvent vu des situations où ça dérapait carrément et c'est le citoyen lui-même qui pénalisé parce que souvent...
Même s'il n'est pas fautif.
Exactement. Donc même si nous sommes en état d'arrestation pour une raison non fondée, on va pouvoir par la suite le démontrer, soit par le biais d'un procès ou même peut-être ça va même pas aboutir à un procès. Oui. Mais par contre, on pourrait être accusé d'entrave au travail des policiers ou des voies de fait contre la police. Et à ce moment-là, même si on est acquitté sur le premier chef, le chef initial pour lequel nous avons été mis en état d'arrestation, nous allons quand même être poursuivis et même déclarés coupables pour ces deux chefs-là qui sont très graves aussi, entrave au travail des policiers et accusation de voie de fait.
Donc, pour vous, le conseil que vous donnez toujours, il faut toujours rester sage
si jamais
semblable.
Exact, mais écoutez, je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps.
Oui,
rapidement,
je
pense à une situation... donc moi personnellement j'ai eu connaissance d'une personne qui a fait des menaces de mort à un de ses voisins. La police a été appelée. Cet individu a été mis en état d'arrestation. La personne elle a été frustrée parce qu'elle considérait que la police n'avait pas aussi pris sa version de la chose, de l'histoire. Et il a résisté à l'arrestation. Donc on a ça s'est mal terminé. Donc il a été accusé de menaces de mort premièrement, ensuite entrave et voies de fait sur les policiers. Il a subi un procès quelques années plus tard. Il a été acquitté sous le premier chef qui était les menaces de mort contre son voisin. Il a été condamné, donc il est resté avec un casier, etc., ce qui a causé un grand préjudice dans sa vie finalement. Donc le conseil que j'ai à vous donner à tous, même si on nous arrête, etc., et on pense qu'ils n'ont pas raison de le faire, les agents de la paix, il faut collaborer dans un premier temps et par la suite nous allons pouvoir faire valoir nos droits par tous les moyens nécessaires, entre autres les trois recours que je vous ai expliqués.
Merci,
Maître
Andréa, c'est vraiment excellent. Et je lance toujours cet appel que, chers auditeurs, vous pouvez toujours écrire à Mage, info@mage-quebec.com. Et demandez si vous avez des questions à poser à Maître Andréa, elle va vous répondre sur les ondes. Peut-être je vous rends pour un dernier mot, M. Roland Cazès.
Mais moi, ce que je prétends, c'est que les policiers doivent respecter les citoyens aussi. Le respect doit être mutuel. Parce qu'eux font leur devoir, normalement, naturellement. Et le citoyen va qu'à son devoir, et bien des fois, même dans une manifestation, le citoyen, c'est son rôle de manifester pour faire évoluer la société.
Mais ça, c'est tout à fait, oui. Alors, c'est son devoir même. Hein,
ouais. Ah oui, les policiers n'ont pas attaqué un gars parce qu'il manifeste, je regrette infiniment. Il y a un respect mutuel qu'il faut avoir. Et sur ce, moi, je prétends qu'un policier doit se comporter comme il faut. Il ne doit pas sacrer, par exemple, comme j'ai déjà entendu des policiers. Excusez-moi, je vais les dire, asti et tabarnak et calice, deux policiers dire ça en me mettant une amende parce que je jurinais.
Je reviens dans les prochaines émissions pour ça. Donc, écoutez, voilà, c'est malheureusement tout le temps qui nous reste dans notre émission. Je veux d'abord remercier Maître André Iapopisco pour ses conseils et son intervention d'aujourd'hui. N'oublie pas, mes chères auditrices et auditeurs, que vous pouvez toujours écrire à Maître Popisco. Elle est là pour vous conseiller. Je remercie aussi mon collègue Roland Cazès pour sa fidélité et son combat pour la justice. Sans oublier de remercier Mme Rosemonde Legault de son soutien administratif au sein du mouvement et d'avoir veillé sur le son de cette émission. Finalement, merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé la parole sur ces ondes afin que la parole de l'autre existe. Sur ça, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis merci pour votre écoute et on vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Bonne fin de semaine à tous.
Pour l'instant, je ne fais que ce qui leur plaît. Pour l'instant, je ne fais que ce que bon leur semble. Quand on est nouveau dans le métier, mieux vaut pas trop que l'on vous entende. Pour l'instant, le meilleur système pour avancer est celui de la vipère, la salamandre. Du sang froid, du venin, des morsures bien ficelées. Pour chaque jour, avoir de la viande froide à étendre. Pour l'instant, à genoux, j'ai peut-être l'air niais, mais debout, moi, pour l'instant, je tangue. Il me faut encore connaître les ficelles du métier. De quelle façon, de quelle manière, on égorge, on étrangle. Tout ce qui peut sur votre route se trouver, et qu'il faut supprimer sans que la main nous tremble. Pour l'instant, je ne suis peut-être qu'un laquais, un assistant de l'assemblée, un valet de chambre. Pour l'instant, je taille. Pour l'instant, je bondis les ongles. Pour l'instant, je...
L'agence de voyage Service Plus vous offre ses spéciaux d'automne à destination de l'Afrique pour les départs entre les 20 octobre et 10 décembre. Conakry pour 1469 $, Abidjan 1379, Lomé 1539, Cotonou 1499, Kinshasa 1459, Luanda 1599, Johannesburg pour 1359 $. Ces tarifs incluant les taxes et frais d'OPC sont sujets à changement selon les conditions des transporteurs. Pour vérification et information, agence Service Plus 514-277-1934 277-1934.
Bonjour, ici Yann Perrault. Le 12 novembre, soyez des nôtres au Club Soda afin de célébrer le 10e anniversaire de Jeunes Musiciens du Monde, un organisme qui permet à plus de 600 jeunes de s'épanouir grâce à la musique. Galaxy, Orange Orange, Antoine Graton, Tefi Choc, Caracol, Marc Derry, Marco Cagliari, Nicolas Pellerin, Papagrou, Catherine Pogonat seront aussi de la fête. Les billets sont disponibles sur jeunesmusiciensdumonde.org et au Club Soda.
Une présentation de la capitale groupe financier.
Radio Centre-Ville 102,3 FM ou www.radiocentreville.com. Captez tous les samedis à l'heure de l'équipe haïtienne l'émission Espace communautaire pour vous mettre à jour sur les divers événements et activités de la communauté à partir de 17h30 avec Gladys Demosthène et Jean Rodnil.
Salsa, reggae, compa, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, ragamuffin, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukousse, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 102,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.